J'avais bien hâte de retrouver notre ami Daniel Brière, à qui nous n'avons pas parlé depuis un bon 2 semaines. Il est au bout du fil, justement, ce soir. Salut, mon Daniel.
Salut, Mario, ça va bien?
Ben, ça va bien, toi-même.
Pareillement ici.
Oui, alors il semble que Scott Gordon est toujours l'entraîneur par intérim des Flyers. Je te le dis au conditionnel, parce que ça va vite, les nouvelles à Philadelphie, Daniel, hein?
Les choses changent vite à Philadelphie. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais non, écoute, il a fait du bon travail à son premier match. Par contre, là, il y a deux gros tests pour les Flyers. Ce soir, il affronte Nashville. Puis samedi, je crois que c'est Columbus. Donc, deux gros matchs là, pour les Flyers.
Des congédiements d'entraîneurs, je ne sais pas si tu en as vécu pendant ta carrière, Daniel, mais en tout cas, clairement, ceux qui ont été congédiés cette année, ça n'a pas changé la donne pour l'équipe qui le dirigeait nécessairement. La seule place, on verra pour les Flyers avec Gordon, mais la seule place où il y a des résultats positifs, c'est à Edmonton, puis peut-être pas là où les gens l'anticipaient, avec Ken Hitchcock qui est derrière un banc. Plusieurs pensaient que Ken Hitchcock était brûlé derrière un banc, puis coudonc, ces Oilers réagissent alors que ça n'a rien changé à Los Angeles, à Chicago, je pourrais nommer toutes les autres villes, mais tu comprends ce que je veux dire.
Ouais, puis même moi j'aurais pensé que la place que ça aurait pas fonctionné c'était avec Hitchcock, mais au contraire, il fait de l'excellent travail de ce côté-là. C'est difficile quand t'as un nouvel entraîneur parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Moi, quand je l'ai vécu, c'était lorsque les Flyers ont congédié John Stevens pour amener Peter Laviolette. Puis au début, ça a été difficile, par la suite, là, après 3 semaines, 4 semaines, quand il a été capable d'installer son système de jeu, là, ça a bien été. On a fini en force. On s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley, mais on n'a pas gagné, malheureusement. Donc, ça avait été positif. Mais les premières semaines, là, ça avait été difficile de s'adapter à un nouveau système de jeu. Par contre, des fois, ce qui arrive, c'est que les joueurs vont en donner plus parce qu'ils ont beaucoup à prouver. Quand il y a un nouvel entraîneur, tout le monde a un peu peur de ce qui va arriver. Ils ont peur de perdre leurs responsabilités. Puis c'est la chance pour d'autres joueurs qui ont moins de responsabilités d'en avoir plus. Fait que tout le monde, des fois, là, vont peut-être essayer d'en donner un petit peu plus avec un nouvel entraîneur. C'est un peu ce que j'ai ressenti là, au premier match des Flyers. Parce que du côté système, là, les Flyers ont joué un excellent match. Ils n'ont pas eu l'air d'avoir été affectés du tout parce que Gordon a changé. Puis comme je disais, là, ce que j'ai senti, là, c'est que les joueurs avaient beaucoup à prouver avec le nouvel entraîneur.
Ici, on continue de surveiller étroitement le Canadien. Bon, à 5 contre 5, ça va bien, mais dès qu'on joue à 4 contre 4, le Canadien se fait souvent dominer, se fait compter des buts. À 3 contre 3 également, se fait une mèche qui n'ont pas gagné un match en prolongation. Et en avantage numérique, Daniel, c'est tout à fait lamentable. Et on est en train de se demander si l'inertie du jeu de puissance en viendra pas qu'à coûter une place en série au Canadien de Montréal. Et je regarde les pourcentages des différentes équipes, puis c'est un problème aussi qui doit vous affliger du côté de Philadelphie. Votre power play est à 12,6 d'efficacité, celui de Montréal à 12,4. Comment fait-on pour compter aussi peu de buts en avantage numérique, Daniel?
Ouais, ben écoute, c'est quand même incroyable là, que le Canadien ait été capable de rester en vie aussi longtemps, là, depuis le début de la saison, mais il va falloir que ça change. C'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que tu perds confiance, tu essaies de forcer des jeux. On entend souvent dire là, il faut revenir à la base, il faut garder les choses simples. On doit tirer au but plus, essayer de rapprocher les joueurs du filet pour créer des chances de marquer. Mais c'est beaucoup plus facile d'expliquer ça puis de dire ça que de le faire pour les joueurs. Parce que quand on perd la confiance, là, on essaye de forcer des jeux, on essaye des fois des passes qui sont pas là, on essaye des choses qu'on devrait pas essayer. C'est souvent là, ce qui arrive, c'est la frustration, c'est la panique un peu. C'est pas facile de s'en sortir là, quand les choses s'en vont dans la mauvaise direction.
Vous autres à Philadelphie, il y a des bons gars offensifs, là, Giroux, Sean Couturier, Voracek. Donc, vous autres aussi, vous devez vous demander, voyons, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de produire avec des gars comme ça, des stars, là,
tu sais? Oui, puis pas juste ça. En plus, c'est que les Flyers, là, ce même groupe de joueurs-là, quand on parle de Giroux, Gostis Bear, Voracek dans le haut de la clé, ensuite Simmons au filet, puis là, c'est Couturier cette année. Il y avait Hartnell il y a quelques années. Donc, c'est le même nucléus, c'est les mêmes 5 ou 6 joueurs là depuis 3-4 ans à Philadelphie qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, on comprend mal là, ce qui se passe cette saison du côté des Flyers sur l'avantage numérique. Mais écoute, les équipes s'adaptent. Tu sais, aujourd'hui, là, de nos jours, avec les vidéos, on voit les tendances des joueurs, des équipes. Puis on doit toujours être un petit peu en avant de ça, d'être capable de s'adapter lorsque les défensives vont démontrer quand on est sur l'avantage numérique. C'est pas facile. C'est peut-être un peu la même chose du côté du Canadien. Tu sais, depuis que Shea Weber est arrivé, toutes les équipes savent très bien que le Canadien veut l'utiliser Shea Weber, mais là, on semble essayer de pousser les équipes dans l'autre direction pour pas que Shea Weber ait la chance de tirer au filet aussi souvent.
Si c'est si difficile d'organiser un jeu de puissance, explique-moi pourquoi Ovechkin continue de compter des buts du même endroit depuis tant d'années, puis les autres, ça marche pas.
Ouais, ben écoute, une des forces, puis tu sais, quand je pense à des joueurs comme ça, on pense à Ovechkin, on pense à Stamkos qui est un peu dans le même moule. Ouais. On pense à Lane, à Winnipeg. Mais si tu regardes ces trois équipes-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont d'autres joueurs qui sont très, très dangereux. Tu sais, Ovechkin, là, ça fait des années qu'il y a Backstrom qui contrôle l'avantage numérique sur l'autre côté de la glace. Puis des fois, là, on oublie ou on perd Ovechkin. Tu penses à Stamkos, c'est Kucherov qui s'occupe du power play de l'autre côté, puis Stamkos est capable de se perdre, puis là, tout d'un coup, boum, on le frappe. Du côté de Winnipeg, c'est un peu la même chose avec Scheifele. Donc, tous ces joueurs-là, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils ont un joueur qui contrôle l'avantage numérique de l'autre côté de la glace. Puis ça leur permet là de se libérer puis de trouver les zones ouvertes.
Ça prend un quarterback, c'est un jeu de puissance. Puis tu sais, on va s'entendre sur une chose. Shea Weber a toute une garnotte. Là. Il a un lancer très redoutable. Lui et Chara ont les tirs les plus puissants de la Ligue. Mais c'est pas un corps arrière. On a délégué cette tâche-là à Jonathan Drouin avec un succès très mitigé comme corps arrière. On l'utilise encore. Bon, Petrie devient le corps arrière. Weber joue dans le spot de d'Ovechkin un petit peu plus bas. Mais toi, là, si ça marchait pas, tu étais en position d'autorité ou tu étais un joueur influent, qu'est-ce que tu essaierais de dire au coach ou aux joueurs? Qu'est-ce qu'il faut changer, les gars? Carey Price a même émis son opinion l'autre soir en voulant dire « jam it in », en voulant dire « lancer sur le net » puis « rentrer la force dans le net s'il faut ». Mais ça semblait pas bien compliqué dans sa vision des choses de l'autre bout du fil. Ouais, lui qui fait face à beaucoup de power play quand même contre lui. Mais toi, tu suggérerais quoi, Daniel? Ou qu'est-ce que tu as déjà suggéré?
Ben écoute, j'ai passé moi aussi là des zones noires, des zones grises où c'était difficile. Puis les entraîneurs, ce qui nous amenait, puis aujourd'hui, je pense un peu de la même façon. C'est un peu ce que je disais plus tôt. On disait à nos joueurs d'essayer de se rapprocher du filet parce que quand ça va mal, on a tendance à s'éloigner pour avoir plus de temps à faire des jeux. Mais ce qui arrive, c'est quand on prend des tirs, puis là nos joueurs sont loin du filet, c'est difficile de sauter sur les
retours.
Rebonds.
Ouais.
Oui, exactement. Puis c'est ça qui va créer beaucoup de controverses aussi.
La confusion, tu veux dire, je pense à Daniel?
Oui, exactement. C'est ce que je voulais dire. Puis par la suite, si tes joueurs sont proches, là, on peut en profiter. Si tes joueurs sont loin, mais là, on retourne à la case départ. On joue à l'extérieur, puis ça devient plus facile de défendre là, contre ce type d'avantage numérique-là.
Arizona-Montréal ce soir, Galchenyuk contre Domi. Est-ce que ça te semble clair ou t'attends encore avant de faire d'y aller d'un jugement définitif que le Canadien a vraiment remporté cette transaction-là?
Ben, il y a pas de doute là, que depuis le début de cette saison aussi, là, c'est le Canadien qui a dominé cette transaction-là. Mais écoute, les choses peuvent changer. Galchenyuk a été blessé. On était content de lui là, lorsqu'il est revenu au jeu. Il est encore un peu trop tôt, mais je pense pas que c'est important ce que Galchenyuk va faire. Si Domi continue à jouer de cette façon-là, le Canadien va être très, très content de la transaction.
Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir ce soir comment ça va se passer. On arrive au temps des fêtes, Daniel, la pause du temps des fêtes, et très bientôt, on parlera de la date limite des transactions. Est-ce que tu vois beaucoup de mouvements à l'horizon par rapport aux gars qui sont en dernière année de contrat? Je pense, par exemple, à Mark Stone du côté d'Ottawa, à Matt Duchesne. Des Sénateurs ont deux gros cas, mais il y en a partout dans la Ligue des gars semblables. Penses-tu que les équipes vont faire comme les Islanders et tenter de les garder jusqu'à la fin de l'année, même s'ils n'ont pas d'entente, quitte à les perdre pour rien? Ou au contraire, ils ne voudront pas revivre ce que les Islanders ont vécu, perdre Tavares pour rien?
Ouais, écoute, moi ça me ferait peur, honnêtement, comme gérant, j'aimerais mieux recevoir une certaine valeur plutôt que de perdre un joueur, même si on est en position de faire les séries, parce que aujourd'hui, là, de nos jours, c'est tellement important là, d'avoir de la valeur pour les joueurs, puis surtout quand on les a depuis le repêchage, parce qu'on passe beaucoup de temps, on passe beaucoup d'heures, on passe beaucoup de dollars également pour ces joueurs-là. Les perdre pour rien, là, ça fait extrêmement mal. Je pense aux Islanders, comme tu as mentionné. qui ont perdu le Tavares pour rien, là, ça fait mal. Moi, je suis plutôt de la pensée que les équipes, s'ils savent qu'ils vont perdre leurs joueurs, je pense à un Simmons également à Philadelphie, moi, je suggérais là, qu'on essaie d'aller chercher quelque chose en retour plutôt que les perdre pour rien.
Donc, t'attends-tu à ce que Simmons soit échangé?
J'ai l'impression que quelque chose va se passer. Ah. Tu sais, parce que, écoute, les négociations, ça avait pas l'air d'avancer avec Ron Extall. J'ai comme l'impression qu'avec Chuck Fletcher, les choses vont essayer, ou il va essayer, disons, de faire avancer les choses avec Simmons. Je sais pas si elle va se produire un nouveau contrat pour lui, mais j'ai comme l'impression qu'on va essayer. Puis sinon, ben écoute, j'ai l'impression que c'est fort possible, surtout que les Flyers, ça regarde pas bien pour les séries éliminatoires. Je pense pas qu'on serait prêt à perdre là, un Wayne Simmons pour rien.
Si t'étais dans les bottines de Marc Bergevin ou l'un de ses proches conseillers, dans une année comme celle que vit le Canadien, qui pour l'instant se maintient dans le portrait des séries, c'est fragile, quelques défaites et ça peut glisser, mais en contrepartie, quelques victoires, puis tu peux consolider ta place. Est-ce que c'est une bonne année pour, disons, dépenser un choix de deuxième ronde ou quelque chose dans le genre pour t'améliorer? Entre autres, on parle beaucoup du flanc gauche défensif. Ou tu dis, écoute, nous autres, là, on vient de repêcher troisième au dernier repêchage. On va vivre avec ce qu'on a cette année. Que sera, sera. Ouais. Puis on apportera des additions l'été prochain. Comment tu verrais ça si tu étais dans ses bottines ou proche de lui?
Moi, je pense que c'est important pour le Canadien d'évaluer à quel endroit ils sont à travers la Ligue nationale, puis surtout dans leur division ou dans la conférence de l'Est. Si Marc Bergevin évalue que il y a de très bonnes chances de sortir de la division, puis de sortir peut-être même de la conférence, écoute, là, oui, sans aucun doute. Mais si tu dis, écoute, on fait les séries, mais ça va être difficile de passer à travers la première ronde si on doit affronter un Toronto ou un Tampa Bay. On n'est pas encore rendu au même niveau qu'eux autres, mais peut-être qu'on attend une année de plus. Mais c'est pas facile. Tu dois être très, très franc dans tes évaluations de tes propres joueurs. Je te dirais, si on perd un choix de troisième ou quatrième ronde, même de deuxième ronde, moi, je suis prêt à vivre avec ça parce que la valeur de ces choix-là, hein, on ne sait jamais ce que ça va donner. Par contre, là, avant de donner un choix de première ronde, on doit être sûr de nos affaires.
Ben, belle conclusion à cette chronique, notre dernière en 2018, mon cher Daniel. J'espère que tu vas passer un beau temps des fêtes. Bien des activités prévues pour le clan Brière?
Écoute, un petit peu de temps au Québec dans les prochains jours. Puis après Noël, là, c'est le retour à Portland pour aller voir les Mariners jouer pour quelques matchs là, avant le jour de l'an. Donc, passez de belles fêtes de votre côté, à toi Mario, puis à tous nos auditeurs.
Ben Daniel, c'est très gentil. Belle pensée. Salutations à toute ta famille. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes à toi aussi. À bientôt, mon cher.
Merci. Salut Mario.
Salut Daniel. C'était donc Daniel Brière. Et dans un instant, on va demander l'opinion de Bruno Eppel sur le coup fumant réalisé par Danny Mathiosia hier, soit l'embauche d'Anthony Carvillo comme co-entraîneur et entraîneur des quarts arrière. Revenez-nous dans un instant.